Bonjour, c'est Harry. Dans ce rendez-vous hebdomadaire, ouvrons ensemble une parenthèse philosophique pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Nous parlons sans y penser, et pourtant, ce simple acte d'émettre des sons articulés, d'enchaîner des mots selon des règles grammaticales, porte en lui la marque la plus profonde de notre humanité. Parler, c'est faire monde. Parler, c'est penser. Mais d'où vient cette mystérieuse puissance ? Le langage exprime-t-il la pensée ou bien la crée-t-il ? Les philosophes, depuis l'Antiquité, n'ont cessé d'interroger ce lien indissoluble. Le langage n'est pas seulement un outil de communication, il est la condition même de la conscience, le tissu dans lequel nos idées prennent forme. Sans mots, pas de concept. Sans syntaxe, pas de logique. Sans langage, pas d'humanité. Henri Delacroix le résumait d'une phrase lumineuse. La pensée fait le langage en se faisant par le langage. Autrement dit, l'un et l'autre naissent ensemble. Il n'y a pas de pensée pure, flottant dans le silence. Il n'y a pas non plus de mots sans sens. L'enfant, dit Alain, commence à penser en même temps qu'il apprend à parler. Ses premiers cris sont déjà des signes, et sa mère les comprend avant même qu'il ne sache ce qu'il exprime. Il parle avant de penser, et pourtant, il ne peut penser qu'en parlant. Voilà la porie. De la poule et de l'œuf, qui précède ? La pensée ou la parole ? Rousseau l'avait déjà posé dans le discours sur l'origine de l'inégalité. Si les hommes ont eu besoin de la parole pour apprendre à penser, ils ont eu plus besoin encore de savoir penser pour trouver l'art de la parole. C'est ce cercle vertueux, ou vicieux, selon les points de vue, qui fonde le mystère du langage. Il est à la fois origine et conséquence de la pensée. Le lieu où l'humain s'invente lui-même. Descartes voyez dans la parole la marque de la raison humaine. Les animaux peuvent bien communiquer, grogner, chanter ou danser. Ils ne parlent pas. Et c'est cela, disait-il, qui prouve qu'ils ne pensent pas. Parler est le propre de l'homme, écrivait-il à propos de sa célèbre théorie de l'animal-machine. La parole témoigne d'une pensée claire, d'une conscience réfléchie. Parler, ce n'est pas seulement émettre des sons, c'est exprimer des idées. C'est dire autre chose que j'ai faim ou j'ai peur. C'est pouvoir affirmer, nier, douter. C'est pouvoir parler du passé, du futur, de ce qui n'existe pas encore. Le mot, pour Descartes, n'est donc pas un bruit. C'est le signe d'une âme raisonnable. Parler, c'est penser. Et c'est pourquoi le langage nous distingue du reste du vivant. Mais Rousseau, un siècle plus tard, proposera une autre origine. Pour lui, le langage ne vient pas de la raison, mais du cœur. Avant d'être instrument de logique, il fut cri de passion. Les premiers hommes, dit-il, dans son essai sur l'origine des langues, chantèrent avant de parler. Les premiers hommes furent poètes avant d'être géomètres. Le langage est donc d'abord chant, émotion, musique. Il naît de la chaleur des sentiments, non de la froideur du raisonnement. Et c'est là, selon Rousseau, que vient sa beauté. Il ne sert pas seulement à dire le vrai, mais à dire le vécu. Chez Platon, le langage devient le lieu de la quête de la vérité. Socrate, son maître, ne laisse rien par écrit. Il parle, il questionne, il discute, il accouche des esprits. La maïeutique, cet art de faire naître les idées, repose tout entière sur le langage. Le dialogue platonicien n'est plus qu'une conversation, c'est une ascension. À travers les mots, les interlocuteurs montent vers les idées, ces réalités invisibles que seul le raisonnement peut atteindre. Le langage est alors ce qui relie le monde sensible au monde intelligible. Mais attention, Platon se méfie de l'écriture. Dans le Phèdre, il raconte le mythe du dieu Thoth, inventeur de l'écriture, venu présenter son invention au roi d'Égypte. Le roi refuse. « Ton art produira l'oubli dans les âmes. » Ils cesseront d'exercer leur mémoire, ils croiront savoir, mais ils ne sauront plus. Pour Platon, le langage vivant est dialogue, mouvement, échange. L'écriture, elle, fige la pensée. Elle donne l'apparence du savoir sans la présence du penseur. Ainsi, la vérité naît dans la parole partagée, non dans la trace écrite. Parler, c'est faire exister la pensée du monde. Avec la modernité, le langage devient l'objet d'études scientifiques. Ferdinand de Saussure fonde la linguistique moderne en définissant le signe comme l'union d'un signifiant, le mot, le son, et d'un signifié, le concept. Ce lien, dit-il, est arbitraire. Rien dans le mot « arbre » ne ressemble à l'objet qu'il désigne. Mais ce caractère arbitraire ouvre un espace de liberté. Le langage devient un système de différence. C'est parce que « arbre » n'est pas « marbre » que nous pouvons comprendre le monde. Le sens naît des contrastes, des écarts. Wittgenstein, lui, transforme cette vision en profondeur. Dans son Tractatus, il soutient que le langage est la carte du monde. Il figure les faits. Les limites de mon langage signifient les limites de mon monde. Nous ne pouvons penser ce que nous pouvons dire. Mais, dans sa seconde philosophie, celle des recherches philosophiques, Wittgenstein se corrige. Le sens d'un mot n'est pas une essence, c'est un usage. Le langage n'est pas un code figé, mais un ensemble de jeux, des pratiques sociales, où les mots tirent leur sens du contexte. Dire « je promets » n'est pas décrire une action, c'est agir. Dire « je te baptise » ou « je vous déclare marié-femme » crée une réalité nouvelle. Avec Austin, cette idée deviendra la théorie des actes du langage. Parler, c'est faire. Mais si parler, c'est agir, que dire de la vérité ? Nietzsche, dans « Vérité et mensonge » au sens extramoral, dénonce le langage comme un voile. Les mots ne reflètent pas le réel, ils le construisent. Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont. Le mot « feuille » ne désigne aucune feuille particulière. Il généralise, il abstrait. Le langage nous éloigne du monde sensible, il nous enferme dans des conventions. À l'inverse, Habermas voit dans le langage la possibilité d'un accord rationnel, une éthique de la discussion. Dans la communication authentique, dit-il, chacun s'exprime librement, et le dialogue devient le lieu du consensus. Le langage peut alors être une voie vers la paix, un outil de civilisation. Merleau-Ponty, enfin, affirme que le langage ne traduit pas la pensée, il l'accomplit. La parole joue toujours sur le fond de la parole. Il n'est jamais qu'un pli dans l'immense tissu du parler. Penser, c'est parler intérieurement. La parole est la chair de la pensée. Louis Lavelle le dira magnifiquement. Le langage n'est pas le vêtement de la pensée, il en est le corps véritable. Ainsi, le langage révèle la double nature de l'homme. Il est à la fois son moyen d'expression et sa prison. Par lui, nous pensons, nous aimons, nous créons. Mais par lui aussi, nous mentons, nous manipulons, nous nous enfermons dans des clichés. Les sophistes en avaient fait un art du pouvoir. Platon les accusait d'envoûter les foules. Aujourd'hui encore, les mots peuvent devenir des armes, slogans politiques, propagande, manipulation médiatique. C'est pourquoi la philosophie du langage est aussi une philosophie de la vigilance. Apprendre à parler, c'est apprendre à penser. D'où l'importance dans l'éducation de cultiver la clarté, la nuance, la précision du mot juste. Bergson, de son côté, nous invite à la méfiance. Nous ne voyons pas les mêmes choses. Nous nous bornons à lire des étiquettes collées sur elles. Le mot nous éloigne parfois de l'expérience vécue. L'artiste, le poète, sont ceux qui tentent de retrouver, par-delà le langage usé, la fraîcheur du monde. Chaque langue, dit Wilhelm von Humboldt, est une vision du monde. Parler une langue, c'est habiter une culture. Le mot « neige » n'a pas le même poids sous la plume d'un Inuit, d'un poète japonais ou d'un enfant du Sahel. Ainsi, l'humanité est multiple parce que ses langues le sont. La malédiction de Babel n'est peut-être pas une punition mais une richesse. La diversité des langues est la diversité des mondes. Mais cette diversité pose la question de la traduction. Paul Ricoeur l'exprimait ainsi. Ou bien la diversité des langues exprime une hétérogénéité radicale, et alors la traduction est impossible, ou bien la traduction, parce qu'elle existe, prouve qu'un fond commun relie les langues. Traduire, c'est espérer qu'au-delà des mots, il existe un sens partagé. C'est l'acte le plus humain qui soit. Faire passer une expérience dans une autre langue, chercher l'universel dans le particulier. Luc de Backer, dans Le langage en tant que problème philosophique, écrit que la langue est à la fois phénomène biologique, social et spirituelle. Elle habite la pensée, dit-il, comme un vêtement dont la forme extérieure ne laisse pas deviner celle du corps qui le recouvre. Mais ce vêtement est vital. Sans lui, la pensée n'aurait pas de forme du tout. La langue relie la conscience et la culture. Elle est le pont entre le monde intérieur et le monde partagé. C'est pourquoi, conclut-il, la réalité n'est pleinement réalité que lorsqu'elle est replacée dans le cadre du langage. Autrement dit, tout ce qui peut être pensé, dit, transmis, trouve dans le langage sa vérité. Mais il faut aussi rappeler qu'avec Wittgenstein, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Il y a des expériences que les mots trahissent. L'amour, la mort, le sacré, l'art. Le silence, alors, n'est pas absence de langage, mais son envers. Il est le lieu d'où naît toute parole authentique. Parler, c'est toujours risquer de mal dire. Se taire, c'est reconnaître l'infini du réel. Entre les deux, nous avançons, humains de paroles et de silences, cherchant sans fin les mots pour dire ce que nous sommes. Et ainsi se referme notre parenthèse philosophique. À bientôt pour de nouvelles pensées. C'était Harry sur Radio Prévert.